Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi. Vous le savez, on est très heureux d'être avec vous, avec une équipe parfaite hein, pour débriefer Irlande-France. On est avec Philippe Saint-André, c'est la première de Cédric Amance avec nous, Pascal Duprat, Simon Dutin. Si vous avez raté nos deux premières heures, franchement, cet après-midi, vous pourrez tranquillement vous précipiter sur le podcast. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à le faire. On bat des records tous les mois en podcast. On a évoqué cette victoire à Dublin, on a parlé de la blessure d'Antoine Dupont, est-ce que les Irlandais n'ont pas fait un petit peu exprès, on a parlé de Paris Saint-Germain-Liverpool, c'est mardi soir, bref, écoutez ça tranquillement cet après-midi. Dans quelques instants, la seconde des GG, on va reparler de cette historique Irlande-France et des choix de Fabien Galthié. A-t-il fait taire toutes les critiques? Vous verrez, les GG ne sont pas d'accord. 11h30, les GG remontent le temps, nous prenons une date anniversaire et on en fait un débat. On va un peu se faire mal hein, aujourd'hui. 8 mars 2017, la fameuse remontada du Barça face au Paris Saint-Germain. C'était il y a 8 ans, jour pour jour. Et puis 11h45, le fameux débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles doivent débattre. Vous êtes dans le noir, les GG. Totalement dans le noir et pourtant, il va falloir nous dire des trucs. D'après vous, c'est quoi le débat caché, Simon Dutin?
Je pense que tu vas revenir sur l'excellente interview que Pascal Grisot, le président de la Fédération Française de Golf, nous a accordée dans le dernier numéro du Practice RMC, et que tu vas nous demander si on croit ou pas à la viabilité des solutions qu'il nous a présentées pour unifier enfin le circuit mondial du golf et regrouper à nouveau tous les meilleurs joueurs du monde.
C'est technique quand même, hein. Mais moi j'adore.
Écoute, c'est intéressant. Cédric, je crois que Cédric joue au golf. Et,
oui, mais là tu l'as même perdu là.
Pourquoi Cédric fait cette émission? Pourquoi? C'est un camarade de jeu extraordinaire parce qu'il joue au golf,
bien
il est fan de golf aussi.
Tout ça, c'est joué sur un green.
Pascal Grisot, évidemment, est notre invité dans le Practice RMC.
Et si c'est pas le débat caché, j'invite les gens à aller écouter le dernier numéro du podcast.
Après sa lettre à Trump, voilà, il a fait une lettre à Donald bien Trump sûr. Et il répond dans le podcast. Bravo, merci pour ce teasing. C'est à retrouver tous les lundis, tous les vendredis. Allez sur rmcsport.fr. Le débat caché. Philippe Saint-André, c'est quoi le débat caché?
Moi, je pense que tu vas parler de Klopp qui ironise sur la sanction de Paulo Fonseca. Par contre, moi, j'aimerais bien que tu parles de LeBron James qui s'est blessé cette nuit et peut-être qu'il est fini.
Oula, carrément, peut-être qu'il est fini. Oh, le pavé dans la main.
Okay. Moi, c'est une émission entière.
Cédric Aymon, c'est quoi le débat caché?
TGL.
Ah, le golf encore!
Le golf indoor. Est-ce que ça peut permettre de démocratiser le golf, amener un nouveau public côté spectacle? On le voit aux États-Unis avec les mi-temps, c'est du show. Je la suis, je regarde, c'est très bien fait, c'est intéressant.
Ouais, ça se passe dans un hangar, ça se passe aux États-Unis avec les meilleurs joueurs du monde.
6 à 8000 personnes dans une arène.
Exactement, et c'est plutôt bien fait. Je suis d'accord avec toi. Alors là, franchement,
si c'est pas un débat caché, j'invite les auditeurs à aller écouter le numéro qu'on a fait sur la DG.
On en a parlé dans Practice RMC, évidemment.
Je vous ai fait la passe.
Évidemment. Le producteur me demande d'enchaîner, je sais pas pourquoi. Pascal Duprat, c'est quoi le débat caché?
Non, moi, en fait, c'est simplement pour prouver à Cédric que les contre-attaques, c'est truqué, en fait. Donc, moi, je vais reprendre mon sujet. Sur Yamal.
Non.
Et sur les journalistes espagnols, parce que j'ai aucune confiance en toi, Jean-Christophe. C'est d'accord. Toi qui truc.
Parce qu'un très belle relance.
Sondage.
Très belle relance. Mais t'es seul.
Tu sais ce que disaient les inconnus, hein, Pascal. Hein. J'ai beau être matinal, Yamal. Alors. On va débuter cette troisième heure avec cette citation de Jules Renard qui a dit un jour « La critique est aisée et le critique dans l'aisance ».
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Moi je trouve que l'équipe de France performe énormément depuis 2020. 80% de victoires sur 55 test matchs, pour moi c'est une performance hors norme.
Ça va être perdu. On va avoir perdu. C'est fait. Victoire de l'Angleterre.
Et encore une fois, est-ce qu'on les voit pas trop beaux?
Tout ce que l'on vit là nous aide à grandir et à progresser.
Je pense que Galthié a fait option violon quand il était jeune étudiant. L'heure est à la vérité.
Essai de Boudéon, le deuxième essai des Bleus après celui de Bielbiaré.
Le totem d'immunité dont il bénéficie depuis qu'il est arrivé aux affaires de l'équipe de France est en train de se fissurer petit à petit.
Nouvel essai, l'essai du bonus. L'essai du bonus, l'équipe de France.
Et ça fait
30 l'équipe
points.
De France.
La résilience, elle se fait collectivement. Nous sommes toujours dans cette période de résilience avec le respect du parcours. On est convaincu que vivre l'expérience qu'on vit en ce moment va nous rendre plus forts.
Je n'en peux plus de ce côté gourou du rugby. Mystique, je vous explique mystique, le truc ouais. Et tout mystique.
Et ben c'est incroyable de pas
pas réussi en fait.
42-27 pour l'équipe de France ici à Dublin. 5 essais marqués, un bonus offensif.
C'est ça le sens surtout, c'est ça le sens qu'on veut donner à ce qu'on fait. Ce soir, on a trouvé le sens.
Voilà. La piscine de bonheur, hein. Vous connaissez cette expression de Fabien Galthié. Hier, on nageait dans une piscine de bonheur. Alors, le 15 de France a signé, vous le savez, une victoire historique en Irlande. Hier, on en a parlé à 9h et tous les choix de Fabien Galthié se sont avérés payants, gagnant le retour des cadres. Romain Tamac, Damien Penaud, le banc 7-1 malgré la grosse frayeur après la blessure d'Antoine Dupont. C'est vrai que le sélectionneur, on en parlait hier, était attendu au tournant. Son deuxième mandat paraissait moins lisible. Le voilà, désormais à un match de remporter son deuxième tournoi des destinations. La musique qui fout les jetons. Et cette question, Fabien Galthié a-t-il fait taire toutes les critiques? Oui ou non? Simon Dutin?
Oui.
Cédric Emans?
Non.
Pascal Duprat?
Oui.
Philippe Saint-André?
Je vais être solidaire avec Cédric, non.
Oh là là, les deux rugbyman qui nous disent non. Ça va être une boucherie dans le studio RMC, je préfère vous le dire. Cédric Emans, bah tu commences, pourquoi non?
Pourquoi non? Parce que son identité de jeu, j'arrive pas à la définir, je sais pas où on en est. Avec ou sans ballon, grosse équipe qui défend et contre. Sa gestion des hommes, je sais pas non plus où il va aller. Alors moi, que je sache pas où il va aller, c'est pas très grave, mais ces joueurs, par moment, on a l'impression qu'ils se posent aussi... Et il se pose aussi la même question, le retour de Ntamack, Penaud, quand on a Tissokbe et Barré qui font des gros matchs, comment il explique, comment il le gère, toute sa communication, j'ai envie de dire sa non-communication.
Il a l'impression que ça lui a donné raison quand même hier, Penaud.
Oui, mais bien sûr, incroyable. Il fait un bon match. Incroyable, je dirais pas jusque là, mais il fait un bon match où on l'attendait.
Il fait une bonne deuxième mi-temps.
Voilà. Pourquoi? Parce que certainement qu'il a été piqué, parce que sa première mi-temps, elle est un peu dure. Et après, c'est dans la communication. Il faut qu'il soit direct, du moins les métaphores, les jeux de mots, les piscines de bonheur. Nous, on veut de la clarté. On veut pouvoir le suivre et l'accompagner. Du moins, on est tous français. On a envie que le sport français soit devant, que cette équipe gagne. Et faisons les choses simples, pas besoin d'aller chercher.
Cédric, qu'est-ce que tu demandes finalement à un sélectionneur? Il y a 15 jours ici, il y avait un débat et moi je me suis un peu insurgé parce que les questions arrivaient déjà. En gros, est-ce que Galthié est toujours l'homme de la situation? Tu vois, c'est un poncif dans notre business. Et moi je m'interroge sur le fait juste l'opportunité de poser cette question. Alors oui, on me répond que Hugo Mola ferait peut-être un manager fantastique du 15 de France.
C'est pas évident, hein, Guinoves,
c'est ce que j'allais dire. Regarde Guinoves, le crash. Exactement. Moi, je pense que ce que Galthié a apporté, et encore une fois, c'était entouré de doutes parce que ça fait plusieurs années avant qu'il prenne le poste qu'on se disait, on en parlait. Bon, il a fallu convaincre. Je trouve que ce qu'il a réalisé avec cette équipe, alors porté par une génération, on ne cesse de le répéter, qui avait l'habitude de gagner chez les jeunes et qui était, je pense, plus armée que ses prédécesseurs pour regarder dans les yeux tous nos adversaires. Je trouve que ce qu'il fait au plan sportif et au plan comptable est absolument remarquable et on peut pas le critiquer. Là où je te rejoins, mais est-ce que ça pèse aussi lourd que sa réussite? C'est cette espèce, moi on en revient toujours à ça, le mysticisme.
Les résultats, c'est quoi? C'est 80% de victoires dans des matchs qui n'amènent pas de titre.
Bah d'accord, mais on en parlait hier avec Philippe. Je veux dire, je trouve que il y a un effet de loupe sur la Coupe du Monde. Vous êtes bien placé, messieurs, pour savoir que il y a autre chose dans le rugby qui compte. Que il y a un déficit de marketing autour de certains trophées. Je veux dire, on considère les tournées victorieuses. Tu reviens pas avec une coupe à la maison, mais pourtant
dans le tournoi des Cinq Nations, c'était même devant en termes de.
Eh ben oui, justement, le tournoi des Cinq Nations, ça valait plus quasiment qu'une Coupe du Monde, en tout cas un grand chelem. Et juste pour en terminer, moi, ce qui m'agace, c'est en effet cette espèce de mysticisme là, le côté, on entendait Christophe dans la prod, le côté gourou, oui les garçons, le chemin sur lequel on veut aller, tu vois la projection. Il faudrait il est habité, mais bon, nous on aimerait bien savoir avec qui il crèche, parce que on comprend pas toujours. Et vous parliez de Penaud, moi je me mets à la place. Alors heureusement, j'espère qu'il a été piqué. Penaud, il égale donc hier le record d'un certain Serge Blanco. Et en conférence de presse durant la semaine, Il y a un Fabien Galthié qui dit oui, on l'a mis parce qu'il a un potentiel certain. T'as l'impression, un potentiel certain. Il a déjà marqué 37 essais avec toi, enfin en équipe de France, et il a un potentiel
c'est
certain. Il a parlé d'un mec comme ça, comme si c'était d'un nouveau joueur que tu vas tester en équipe de France. Moi, je trouve ça indigne de sa fonction. Et je pense que,
alors, on bah, pourrait attends, revenir camp, là.
Sur le. T'es sûr que t'es avec moi, Simon?
Non, mais sur le. On pourrait revenir sur le cas Jalibert, sur le côté turnover. Je comprends pas pourquoi il défait tout ce qu'il a construit au niveau des certitudes qu'il a dans son effectif pendant 4 ans.
Simon, ce qui est dans le jeu aujourd'hui, c'est que les joueurs, ils lisent. Ils écoutent, ils lisent sa non-communication. Quand il dit ça à Penaud, vous avez vu le visage de Damien Penaud, j'ai la chance d'un peu le connaître. Il n'est pas serein quand il rentre sur le terrain. Il a envie de prouver, il a envie de montrer à son sélectionneur. Donc en ayant cette communication-là, il met la pression sur son joueur. Alors est-ce que c'était un test? Sur la première mi-temps, Damien a été un peu dans le dur. Il a dû se faire piquer à la mi-temps. Il est revenu, il a été très bon jusqu'à s'assommer même sur un plaquage pour prouver qu'il savait plaquer. Il faut faire attention parce que sa communication peut devenir de la non-communication et perdre ses joueurs.
Mais à la rigueur, s'il nous perd nous, c'est pas très grave. Mais vous avez raison de dire est-ce qu'il perd ou non.
Juste pour synthétiser, ce que je voulais dire, c'est que je pense que tant que tu gagnes, et hier avec ce qu'il a fait, il y avait les doutes sur le 7-1 sur le banc. Bon, le 7-1, Jégou qui rentre, on se dit
hier, il a quand même
en cas de blessure, comment on fait et tout.
Le
scénario et la victoire lui donne forcément raison. Alors, donc forcément, tu dis j'ai eu tort de critiquer avant.
Finalement, il est dans ton camp, Pascal. J'ai l'impression, Simon.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, en fait, moi, c'est ce que tu viens de dire, Cédric, sur comment dire. La
communication,
la touche Galthié quant à l'équipe de France, où t'émets un peu des doutes, ça me surprend très honnêtement. Pour connaître pas mal d'entraîneurs de rugby, certains avec qui je suis copain, on sent que les avis sont assez tranchés sur Galthié. Il est assez clivant. Est-ce qu'on lui reproche pas le fait que ça soit le premier sélectionneur de l'équipe de France de rugby à qui on a donné de grands moyens pour réussir? Est-ce qu'on lui reproche pas le fait que il peut disposer des joueurs 42 dès lundi,
tant mieux pour lui.
Est-ce qu'on lui reproche pas le fait qu'il est là au bon moment, c'est-à-dire avec le rugby français qui est au meilleur niveau. Avec des joueurs, une génération exceptionnelle, avec une formation aussi de grand niveau en France, certainement nulle part égalée, dans le meilleur championnat de rugby au monde, où il peut puiser donc ces joueurs-là. On lui reproche aussi, bien entendu, sa communication. Ben ouais, puisqu'on y est, alors il faut lui reprocher aussi ses lunettes aussi, la manière dont il se fringue. J'en ai terminé.
Pascal, vas-y.
Si vous voulez, la trêve des critiques, elle va durer toute la semaine. Il a intérêt à bien gagner contre l'Écosse. Et puis, au premier accrochage venu, eh bien, les critiques vont repartir parce que c'est aussi les aléas de son métier de sélectionneur.
Attends, tu as interpellé les rugbyman et franchement, allons-y, franchement, quand tu nous as dit pas mal de choses,
mais
moi je l'interprète comme ça et tu me dis si je me trompe, est-ce qu'à un moment donné, les copains, vous êtes jaloux? Vas-y, Philippe.
Alors pourquoi je dis non? Parce que, et je le connais, le job d'être sélectionneur fait que tu vas prendre des critiques. Ça fait partie du job. Par contre, sur cette semaine, on en a parlé et j'en avais parlé hier, je l'ai trouvé bon. C'est la première fois qu'il fait du lobbying et qu'il met une pression sur l'arbitre. On a beau dire, mais pour moi, j'ai trouvé qu'on a été bien arbitré hier. Hier, on a été bien arbitré. Il met deux cartons jaunes. Dans le premier quart d'heure, quand tu subis, en règle générale, tu prends carton jaune, essai de pénalité et tout. Là, sur des temps forts des Irlandais, on a récupéré deux pénalités sur plaqueur-gratteur, ce que normalement l'arbitre ne fait jamais. Sur l'essai où on fait un déblayage, où on va au-delà, quand il y a arbitrage vidéo, sincèrement, je me dis, il va refuser l'essai.
Bien sûr.
C'est un peu le tournant du match.
Et c'est le tournant du match. Il l'accepte. J'ai envie de dire que Fabien, en quart de finale de la Coupe du Monde, l'entraîneur sud-africain l'avait becqué.
Ouais.
Et là,
s'il avait fait ça,
voilà. Et là, j'ai trouvé sur la stratégie. La stratégie a été très bonne. Moi, je suis pas
je suis pas pour le 7 avant 1 3 quarts parce qu'on aurait pu faire exactement pareil avec 6 avant et 2 3 quarts parce que le dernier avant tu le fais rentrer dans les 10 dernières minutes. Par contre, la défense à 14 sur le premier rideau alors que c'était jamais fait, donc ils se sont adaptés. La stratégie a été bonne, il a très bien préparé le match, ils l'ont préparé depuis le match contre l'Italie, et j'ai trouvé le coup de pression à l'arbitre après 6 ans de mandat cette semaine qui était au
alors qu'est-ce qui lui manque alors
il était au non, mais
il a pas Philippe a pas répondu, il est jaloux ou pas jaloux?
Mais je ne suis pas jaloux du tout.
Je crois qu'il est un peu jaloux.
Mais je ne suis pas, je connais non. très bien, j'ai joué avec lui. Non, mais Philippe, je ne suis pas Philippe, par contre la critique fait partie du
Philippe,
rôle.
Moi je suis d'accord avec toi.
La critique fait partie du rôle quand tu es sélectionneur. Tu es sélectionneur au foot, au rugby.
C'est ce que j'allais dire. Là, cette semaine, il a changé. Il a attaqué, il a mis la pression où il fallait la
il
mettre.
Il a été bon cette semaine.
Stratégiquement, il a changé. Mais la critique, comme dit Philippe, ça fait partie. Regardez le PSG quand ils avaient Neymar, Messi, ouais. Mbappé. Ils étaient sous les critiques, ils gagnaient rien. C'est toujours pareil. Du moins, il a les joueurs souvent. Ils ont un grand chelem. Ils ont un accident en coupe du Monde. Il y a que Galtier qui se projette, du moins avec ses joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il voit que tout est bien, que ça avance. Mais
c'est pour faire évoluer le débat. Je comprends ce que vous dites, mais à un moment donné, Fabien Galtier, vous le connaissez mieux que personne. Vous avez joué avec lui. Vous êtes évidemment dans les coulisses, dans les trucs et tout ça. Est-ce qu'il a pas ce côté agaçant qui fait qu'on a du mal à comment dire ça?
À le saisir.
Ouais, à saisir, à s'attacher, à voyer, parce que.
À la toupée,
ce qu'on disait. Il est un peu agaçant parce qu'il dit de façon très compliquée des choses très simples parfois.
Non, mais est-ce que ce sont son profil et la façon de s'exprimer, la façon d'être, est-ce que c'est pas ça qui vous agace?
Un peu condescendant.
Mais ça, c'est sa façon de communiquer, que tu aimes ou que tu aimes pas. De toute façon, c'est le boss, c'est lui qui prend les responsabilités, c'est lui qui prend les décisions. Par contre, le match de hier était très important pour lui. Très, très important pour lui.
Mais est-ce que ça aurait fondamentalement changé les choses s'il l'avait perdu? Il va aller jusqu'à la Coupe du Monde. C'est peut-être aussi pour ça que le rugby français va gagner dans les années à venir.
La pression était différente. Même s'il dit oui, on n'a pas de pression, etc. Attends, les joueurs avaient annoncé, on en a marre de 80% de victoires. On veut gagner des trophées, on veut gagner des titres.
Hier.
Et avec cette victoire, ça lui ouvre une finale contre l'Écosse samedi.
Hier, il y a le banc 7-1. J'imagine que tous, et on s'est envoyé des messages WhatsApp,
j'ai même dit quand, et maintenant
quand il y a la blessure de Dupont, on se dit si Fabien Galtier perd ce match, il va prendre toute la semaine.
La tête.
Oui, parce que c'est un gros risque. Je suis pas fan moi non plus du 7-1, mais c'est un gros risque. Après, moi je veux revenir sur Fabien et sa communication. Deschamps fait le même débat ce concernant Deschamps sur sa com. Elle est peut-être plus directe.
Un peu quand même.
Moi, je pense que c'est l'image qu'il envoie. Il a beaucoup de moyens, beaucoup de joueurs, une génération talentueuse. Il a tout à disposition pour y arriver. Et ce qui nous agace, c'est qu'on parle de pourcentage de victoire et pas de titre. C'est ça qui nous agace.
Si tout va bien, il aura deux grands.
Non, il aura une victoire, un grand chelem. Il aura un grand chelem et il y a une victoire.
Pas neutre quand même.
En 4 ans ? 6 ans. 6 ans.
C'est pas neutre.
Et un quart finale de Coupe d'Europe.
De Coupe du Monde.
On a bien compris ton scepticisme, en tout cas. Hervé nous appelle au 32-16. Il est avec nous. Il veut participer au débat. Bonjour, Hervé.
Bonjour, messieurs.
Salut, Hervé. Bon, Fabien Galtier a-t-il fait taire les critiques? C'est notre débat.
Ben, alors, je suis assez critique vis-à-vis de Fabien Galtier. Tout d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que Fabien Galtier, il subit depuis 5-6 ans la médiatisation du rugby. Parce que malgré tout, le rugby aujourd'hui, vous voyez, les émissions, c'est toute la semaine, c'est le week-end, c'est la télé, c'est etc. Donc, il faut gérer tout ça. Le foot, ils savent faire. Didier Deschamps est plutôt art en la matière. Mais le rugby, c'est quand même assez nouveau. Donc,
demande au sélectionneur Philippe si ça n'a pas été dur.
De tout temps,
c'est difficile, comme ça. Oui. Non, mais je pense qu'aujourd'hui.
C'est que les audimats sont en train. Explose dans le rugby. Ça,
aujourd'hui, c'est très compliqué. On décortique tout. Il y a eu tout l'épisode Jalibert. Enfin, voilà. On se rend pas compte, en plus, de l'impact que ça peut avoir sur les personnes. Parce que, mine de rien, c'est difficile, quoi. Je veux dire, vous êtes des entraîneurs et des gens qui avaient d'être. C'est compliqué. Ça, c'est la première chose.
Hervé, la gestion de Jalibert, excuse-moi, parenthèse, elle est catastrophique en termes de communication.
Je parle des médias parce que les médias en ont rajouté. Même, je suis content qu'on n'ait pas parlé cette semaine parce que, bon, je me doutais que, bon, à un moment donné, on en parle, mais bon, on l'a laissé tranquille, c'est très bien. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est ce que vous avez résumé à la fin, c'est que si on gagne la semaine prochaine, je suis désolé, ça fera 80% de victoire sur le tournoi, très bien, on est dans les stats, mais dans 5 ans, dans 10 ans, on n'aura pas de grand chelem, on n'aura pas de ligne grand chelem, et une fois de plus, on rate un match. Et si chaque année, on rate un match ou deux qui sont les plus importants de la saison, Ben, je suis désolé.
Après, attention, un grand chelem, t'en fais un tous les 10 ans, normalement.
Oui. En moyenne.
Oui, je suis d'accord, mais aujourd'hui, on a quand même un niveau de joueurs, c'est quand même exceptionnel. On gagne des Coupes d'Europe avec Toulouse, avec La Rochelle. Cette année encore, on a quand même trois clubs en Coupe d'Europe qui vont être, à mon avis, dans les clous. Il n'y a que le Leinster qui risque de nous poser problème. Je pense qu'à un moment donné, le handball, le handball, par exemple, ils en étaient régulièrement. Le judo, ils en étaient régulièrement. Le basket, ils arrivent presque. Le foot, Didier Deschamps, aujourd'hui, il peut se narrer d'avoir gagné des titres. Et je pense que le rugby doit marquer aujourd'hui son époque.
C'est le sport.
Et aujourd'hui,
niveau.
On est dans cette attente.
C'est le sport au niveau et les exigences du haut niveau.
Ok, donc il n'a pas fait taire les critiques. On a bien compris, les copains, votre sentiment sur ce débat. Évidemment, ça va se prolonger tout au long de la semaine, dans le Super Moscato Show. Dès demain, à partir de 15h, d'ailleurs, une semaine spéciale tournoi destination avec ce match France-Écosse samedi soir prochain. Prise d'antenne dès 20h le samedi, avec toute la bande, évidemment, suivie d'un after spécial autour de ce tournoi destination jusqu'à minuit. Et on espère évidemment que les Bleus vont être champions d'Europe, on peut dire ça comme ça, avec ce tournoi des destinations. Bah justement, on va accueillir Brice. Bonjour Brice.
Bonjour.
Brice, est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle ?
Ouais, j'ai dû gagner, c'est ça ?
Est-ce que t'as joué déjà ? C'est vrai, est-ce que t'as joué ce matin ?
Bien sûr, j'ai joué.
T'as joué parce que t'as envie d'aller au Stade de France, t'as envie de voir la fête au Stade de France ?
Bien sûr.
Eh ben, tu sais quoi, tu viens de gagner grâce aux grandes gueules du sport, grâce à RMC. C'était deux places pour France-Écosse au Stade de France samedi prochain. Tu vas te régaler. Même question qu'à notre auditrice hier. Tu vas avec qui, tu sais déjà ?
Ouais, ma compagne, pour lui faire plaisir.
Ah, c'est à ça que
c'est juste ça pour lui faire plaisir. Ouais.
Ah, et
sinon,
quoi,
j'ai un pote.
Pourquoi tu vas te faire plaisir toi aussi, quand même.
Ah, oh, bah, bien sûr, moi le premier.
Bon, bah, génial. Bah, voilà, t'es deux places. En tout cas, bravo, merci de ta fidélité. Super, tu es récompensé avec ce match France-Écosse samedi prochain. Léna Marjac, notre direct en course, c'est du slalom géant, oui, en Norvège. Salut Léna.
Salut JC, c'est du Super G aujourd'hui.
Super
G. Ouais, avant-dernier Super G de la saison. Trois Français sont passés, Nils Salé. Et 9e pour l'instant, 9e provisoire, mais ça ne devrait pas beaucoup bouger, même s'il reste encore des dossards. Derrière, c'est plus compliqué pour les deux autres Français. Adrien Théo est 24e. Florian Loriot, lui, est 33e et malheureusement dernier de ce Super G. Donc 6 sont encore au départ, mais en tout cas, ce serait une victoire italienne. Victoire de Dominique Paris aujourd'hui pour cette 24e victoire en Coupe du Monde.
Merci beaucoup, Léna Marjac. Pardonne-moi, mais en ce moment, Super G, slalom géant, descente, enfin, c'est le même résultat. On n'est pas invité, hein, même en touchous, en chasse-neige, j'arrive pas à le dire. Bon, bref, vous aurez compris. On vient dans quelques instants, on va se faire mal. Le coup de poignard, comme ça, paf.
Ah, il y en a déjà des coups de poignard.
Romantada, on fête les 8 ans, enfin, en fait.
On a une batte de cuisine.
À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, de retour dans le studio RMC, les grandes gueules du sport, avec ce matin notre nouvelle GG, Cédric Clément. Ça va, tout se passe bien ?
Tout va très bien.
Il
n'y
a pas de recommandations, il n'y a pas de
critiques. Quand des petits SMS, un peu.
Ouais, ça va, on te dit que tout va bien et tous les copains.
On m'a dit que je m'en
C'est l'essence de cette émission.
Pour ça,
tu leur diras.
Après, attends, ils gagnent les contre-attaques, c'est quand même
pas mal. Attendez, et c'est pas donné à tout le monde, hein, non, ça je suis d'accord. Pascal Duprat est également avec nous, Philippe Saint-André. Simon Dutin, dans 10 minutes, le débat caché, ça sera le premier débat caché dans l'histoire de la vie de Cédric Emmons. Tu vas voir, on se régale. Un petit débat et puis on réagit sur l'émotion. Mais tout de suite, on va se faire un petit peu mal. Un petit peu.
Neymar, attention, qui fait une feinte de frappe, qui va se mettre sur son pied gauche, qui va centrer pour Sergio Roberto. Le but, c'est terrible.
Attention. Par-dessus. Non. C'est pas possible.
Sergio Roberto, l'enfant du club. Sergio Roberto, qui est à la conclusion de ce dernier coup de pied arrêté.
Ah, le c'est pas possible de Stéphane Guy qui dresse les poils, hein, tout
le
même.
Paul Le Guen, il est légendaire.
Alors, c'était il y a 8 ans, jour pour jour, vous le savez, dans cette séquence, on célèbre un anniversaire, appelons ça comme on veut. C'était le 8 mars 2017, l'impensable se produit, le FC Barcelone se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, aux dépens du Paris Saint-Germain, après avoir perdu 4-0 au match aller. Alors, ce soir-là, vous en souvenez, les dieux, Neymar, Luis Enrique, les arbitres, tout ce que vous voulez, sont Blaugrana. Les Parisiens sombres comme jamais, 6-1, encaissant 3 buts dans les 6 dernières minutes. Ce soir-là, le monde du foot assiste à la remontée la plus spectaculaire de l'histoire, une rencontre qui portera un nom à jamais, la remontada. Cette remontada hante-t-elle toujours le PSG ? Est-ce qu'elle vous hante, vous également ? Simon Dutin.
Elle me hante, non, n'étant pas supporter du Paris Saint-Germain, non. Mais on y pense, en effet, oui.
On y pense, vas-y, tu peux commencer.
On y pense forcément parce que tu sais que grâce à ce triste épisode pour le football français, remontada est désormais dans le dictionnaire de la langue française. Rien que pour ça, bon, voilà, c'est historique. Mais on y pense évidemment. Mais moi, chaque fois que qu'on parle de cet épisode, qui évidemment, donc encore une fois, a marqué plus que l'histoire du foot français, ça met en perspective le fait que malheureusement ça occulte le match aller, la victoire 4-0 au Parc des Princes, qui pour moi reste un des plus grands chefs-d'œuvre d'un club français en Coupe d'Europe, parce qu'encore une fois, c'était le grand Barça, ils avaient fait le triplé 2 ans avant, et la démonstration du Paris Saint-Germain, la victoire 4-0 au Parc des Princes. Du coup, elle est passée aux oubliettes. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Je trouve ça vraiment terrible. Je trouve que ça a fait beaucoup de tort à, justement, peut-être la suite de la carrière d'Unai Emery, qui, je pense, a été jugé trop sévèrement.
Et pourtant, il est resté, hein. Et,
oui, mais bon.
Il a traîné ça comme un boulet.
Et moi, c'est chaque fois le regret que j'ai, parce que je me souviens très bien de ce match aller et de la masterclass du Paris Saint-Germain. Alors après, voilà, il y a les choses sur lesquelles tu peux pas revenir, l'arbitrage, en question. Et je pense que le deuxième effet de ce match, à part l'amélioration de notre langue française, l'enrichissement, c'est, je suis pas sûr que sans ce match, Neymar aurait signé au Paris Saint-Germain après, parce que c'est quand même lui qui est l'élément moteur de la performance du Barça au match retour. Et le lendemain, les journaux catalans ne parlent que de Messi, et je crois que ça avait rendu un petit peu malheureux notre ami brésilien.
Sans ça, on se souvient à l'été 2017, le PSG s'énerve et fait Neymar et Mbappé. Hein.
Voilà.
Pascal Duprat.
En fait, moi, si t'es mieux, ça ne me hante pas, même si je suis un fanat de foot et je supporte les clubs français tout le temps en Champions League. Alors, je comprends que toi, tu dois être hanté. Et je pense que l'occasion est donnée, de se venger dès mercredi. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être parler de la remontada de Liverpool à compter de mercredi prochain, si les Parisiens venaient à battre Liverpool. Mais de ce match, je me souviens de deux choses. Je me souviens de l'erreur de notre gardien, et je me souviens aussi de l'arbitrage, quoi. Parce que on peut pas passer sous silence l'arbitrage catastrophique, partisan, de ce match retour de Ligue des Champions contre le Barça. Il faut le reconnaître, même si c'est pas de bon ton aujourd'hui de parler de l'arbitrage en France. Malgré tout, ce jour-là, l'arbitre avait été plus que favorable aux Barcelonais.
Et là où je suis assez d'accord avec toi, Pascal, et pour avoir fait les émissions juste après, à l'époque c'était à la télé, on était tellement tous sous le choc qu'on est tous tombés sur les Parisiens. Et certainement à juste titre. Et il nous a fallu, je trouve, beaucoup de temps, la presse française, pour dire, mais en fait, ce qu'on a vécu, c'est un scandale d'arbitrage.
Ah oui.
Incroyable, oui. En fait, inédit. Alors que beaucoup de pays se seraient certainement réfugiés derrière ça. Je trouve que la presse française a mis du temps à se dire, non mais attendez, là, ce qu'on a vécu, c'est pas possible.
J'y sais l'arbitrage, d'accord, évidemment, il y a des erreurs manifestes, comme on dit, mais.
Ah bah, qui change tout, quand même.
Quand Cavani réduit l'écart à 3-1, à l'époque, le but à l'extérieur comptait encore double. Il faut qu'ils en prennent encore 3. Je veux bien l'arbitre, mais il n'y a pas que l'arbitre.
Il y a pénalty sur Di Maria.
Oui, il y a pénalty sur Di Maria, c'est ce que j'allais dire.
Il n'y a pas pénalty sur Luis Suarez qui fait un...
D'accord, mais il fallait en encaisser trois quand même. Donc c'est pas que l'arbitre.
C'est vraiment resté une cicatrice pour les fans du PSG.
Franchement, qui n'est pas. Je me souviens très bien, je préfère vous laisser parler, mais si tu me lances là-dessus,
je me souviens très bien,
je regarde le match tout seul, tu vois, le match retour. Je regarde tout seul, ce qui est assez rare, je regarde tout seul. Je pense que j'ai reculé deux pas à chaque fois qu'on encaissait un but. J'ai fini, mais je te mens pas, hein. J'ai fini sur le balcon. Devant ma porte d'entrée, en me disant, je sais pas comment, mais on va en prendre un. Et je regardais à peine la télé qui était loin, qui était à 8-10 mètres, tu vois. Et je me dis, je veux pas voir ça parce qu'on va le prendre.
C'est ça que la remontée d'Ali.
Il a 200 mètres carrés.
Hein. Vous voyez plus les images.
T'as oublié 100 mètres. Non, mais la remontée d'Ali nous a appris ça, que tout est possible. tout est possible.
Non, mais 3 buts en 6 minutes.
Mais c'est tout est possible, c'est ça.
C'est obligé que tu t'en souviennes, même quand c'est à tes dépens.
Mais maintenant, chaque fois qu'il y a une équipe qui domine et qui met un but, et qui en met un deuxième et un troisième, on pense tous à la remontada. Ça a marqué le sport à un point que, forcément, ça doit hanter les joueurs du PSG, les supporters du PSG, parce que ça arrive une fois dans, peut-être, dans l'ère du football moderne.
Mais te tomber sur un arbitre aussi nul, franchement.
Ah non, mais ça arrive une fois dans sa carrière.
Non, mais comme ça. Non, parce que, encore une fois, tu l'as bien dit, Jean-Christophe, mais tout le monde a passé sous silence pendant longtemps ce scandale de l'arbitrage. Parce que même si les Parisiens sont passés au travers, ce match-là, ils sont quand même fait remonter 4 buts. Mais malgré tout, l'arbitre a bien aidé Barça, quand même.
Après, ça hante les supporters et les joueurs, mais ce que j'arrive pas à comprendre, alors peut-être que je suis pas assez calé en foot, c'est. Comment ils n'en ont pas fait une force, de se dire ok, on l'a vécu, ça ne peut plus nous arriver. Il faut qu'on tire des enseignements.
Regarde l'année d'après, tu as Manchester United. Et ça arrive encore une fois. Non, mais ce que je veux dire,
c'est pas la même histoire, tu parles le même club.
Tu peux en faire une force, mais tu peux aussi en faire une faiblesse. Et la question, c'est ça, c'est
imagine,
est-ce que ça hante le club.
Tu te dis, mais jamais plus. Quand tu prépares le match, tu dis jamais plus, on doit vivre ça. Mais tu as une telle force en toi, une telle confiance que jamais ça doit arriver. Donc c'est pour ça.
Mais je pense que ça a fait
l'effet inverse. Je voudrais faire un parallèle avec le rugby.
Ça a fait l'effet inverse, bien sûr.
Vous les rugbyman, quand vous voyez la France perdre en Angleterre d'un point lors de ce tournoi des 6, tu te dis pas mais comment ça peut arriver ? Quand t'es sur le terrain, quand t'es rugbyman, quand t'as concassé les Anglais comme ils les ont concassés, comment tu te dis à la fin mais comment tu fais pour perdre ?
À la fin,
c'est pareil.
Dis,
malheureusement, c'est la glorieuse incertitude du sport. Oui, c'est comme ça.
C'est ce que tu dis parce qu'à la fin du match, tu dis les Anglais. Tu dis comment t'as fait pour le perdre, mais après de suite après, tu dis t'es responsable toi.
Pascal. Nous, dans un match comme ça, quand tu domines comme ça, tu te dis d'abord, il est imperdable. Mais après, si tu tues pas l'animal et qu'il te reste à portée de moins de 7 points, tu te dis, t'as donné les bâtons pour te faire battre. Donc, très souvent, ces matchs-là, si tu tues pas les occasions, après, il y a un fait de jeu.
Il y a des explications,
okay, etc. Et donc, sincèrement, on a trop fait de cadeaux aux Anglais pour gagner à Twickenham. Alors qu'on était bien supérieurs.
Lors de la remontada, l'arbitre a fait trop de cadeaux au Barça.
Oui, mais Pascal, tu l'as vécu, l'arbitre, sinon elle mentait au-dessus. Moi, je veux bien qu'on parle des débats d'arbitre qui sont bien.
Quand Cavani marque, le but est valable.
Non, je suis d'accord. Mais quand t'es au-dessus, tu dois jouer. Bon, déjà, je suis fier de te faire rien.
Le pénalty sur Suarez.
Peut-être dans une carrière. Mais l'arbitre, t'es avec. Du moins, l'arbitre fait partie du décor. Et même s'il est nul, archi nul, tu dois être au-dessus de ça.
C'est ton éducation de rugbyman qui te.
Tu prends 6-1 après avoir gagné 4-0 au match aller. Moi, je veux bien que l'arbitre fasse des erreurs, que tu dises on s'est fait entuber, mais voilà, tu peux pas. C'est indigne de mettre ça
la
sur
la. La première période est catastrophique.
Les 15 premières minutes,
quand tu as dit que le PSG joue pour perdre, là.
Et c'est pour ça, quand tout à l'heure on parlait de Liverpool, cette équipe-là, pour moi, c'est ce qui lui manque.
Mais justement, il y a quand même, sans se vautrer dans les clichés, il y a quand même la dimension irrationnelle qui peut entourer de temps en temps la fin d'un match de foot. Et le Barça l'a appris à ses dépens en 2019, en demi-finale. Ils mettent 3-0 à Liverpool, justement, au Camp Nou, et ils prennent 4-0 au retour à Anfield.
Pourquoi c'est toujours les mêmes équipes qui gagnent pratiquement, je veux dire, hein? C'est qu'ils rentrent sur le terrain pour gagner et pas pour perdre. Je suis pas sûr que le PSG.
La force de l'habitude.
Exactement.
Ce soir-là, je pense qu'ils ont peur de perdre.
Mon éducation toulousaine fait que tu rentres sur le terrain, c'est pour gagner.
Mais vous avez jamais rien gagné.
Mais oui, voilà.
Attends. Ça saurait sinon.
Ça saurait.
Donc c'est le moment de casser cela, Liverpool.
Voilà. Ok. Bon, même si on parlera pas de remontada 1-0 au match aller quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est en tout cas, ce serait un bel exploit. On se retrouve dans quelques instants, les copains, pour le débat caché. Voilà, c'était amusant de reparler de cette rencontre. C'était il y a longtemps. Maintenant, il y a prescription. On peut y aller. Allez, à tout de suite pour le débat caché.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Allez, 11h47, de retour avec les grandes gueules du sport. Cédric Emmons, Pascal Duprat, Simon Dutin, Philippe Saint-André. À partir de midi, les paris RMC. On vous parlera notamment de la rencontre entre Nice et Lyon. Match très important, surtout après la défaite de l'Olympique de Marseille. Les Niçois peuvent revenir à hauteur des Marseillais. Mais tout de suite, pour clore cette émission, comme d'habitude, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir tout vous dire. Vous le savez, et Cédric, Tu ne sais rien, t'es dans le noir.
Je prépare mon téléphone pour aller chercher des infos.
Il n'y a pas besoin, tu sais quoi, il n'y a pas besoin d'infos. D'accord. À chaque fois, c'est sur l'émotion, c'est sur l'instant. Forcément, vous avez tous vu cette information et vous avez tous envie d'en débattre. Le guet-apens du jour, votre débat caché, c'est ça.
Il y aura un carton rouge. Oh là là, Paulo Fonseca qui va parler.
Pète un plomb.
Alors,
oh là là, allez, pète un plomb.
Faut expliquer là, Paulo Fonseca qui fait vraiment le geste. Il se rapproche de Benoît Millot, vraiment très proche, presque front contre front, il faut le dire. Après son carton rouge.
Alors, c'était donc il y a une semaine.
Un deuxième avertissement, Fonseca est rouge.
Pardon, je laisse les arbitres parler, sinon je vais être exclu également. Okay. C'était donc il y a une semaine, vous le savez, on en parlait hier dans les grandes gueules du sport, le coup de sang de Paulo Fonseca, ce tête contre tête avec l'arbitre Benoît Millot, une colère qui lui a valu, vous le savez, une sanction inédite, hein, interdiction de vestiaire avant, pendant et après pendant 7 mois, interdiction de banc de touche pendant 9 mois. Depuis quelques jours, des entraîneurs, à l'image d'Antoine Camboire, hier on l'a diffusé, volent au secours de leurs confrères. C'était également le cas de Jürgen Klopp. Vous allez entendre la légende de Liverpool, c'était hier, il est aujourd'hui au Paris FC, il n'est plus à Liverpool. Il a préféré ironiser sur le sujet. Je vous propose de l'écouter.
J'ai fait ce que j'ai fait. J'ai vu que Fonseca avait pris 9 mois de suspension. Il existe des images similaires de moi avec les arbitres. La différence entre pas de carton rouge et 9 mois est vraiment très mince. Non, je suis très content de ne pas avoir été dans cette situation.
Et voilà, il a fait rire l'Assemblée en disant évidemment que lui, ça lui était également déjà arrivé. Alors, les entraîneurs doivent-ils le défendre ? C'est le débat caché du jour. C'est oui ou c'est non ? Et puis ça tombe bien, je suis avec des entraîneurs. Pascal Duprat.
Ça, tu me poses une colle. Allez, je vais dire oui.
Ok, plutôt oui. Philippe Saint-André.
Non.
Cédric Emmons.
Dans le monde du foot, oui, pour une fois qu'ils sont solidaires.
Ok. Simon Dutin.
Je vais dire plutôt oui.
Plutôt oui. Bah Pascal, on t'a pas entendu sur ce sujet, et ça tombe bien que tu sois dans cette émission aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je propose ce débat. Oui. Pourquoi oui ? Pourquoi il faut le défendre ?
Alors, bien entendu, le comportement de Fonseca est répréhensible. Là, on va pas revenir là-dessus, et je tiens pas à revenir là-dessus. Par contre, la sanction, 9 mois. Bon, je trouve que c'est exagéré, mais par contre, je la fermerai si d'aventure, chaque fois qu'il y a un entraîneur en Ligue 1, qui s'en prend aux arbitres, ben je la fermerai s'ils prennent autant de suspensions qu'on a pris Fonseca.
T'as un doute, voilà. C'est ça?
Bien sûr.
Pour toi, ça va dans un contexte en fait, après Longoria.
C'est le contexte qui fait qu'on l'a chargé, voilà. Mais encore une fois. Je suis là pour que les arbitres puissent arbitrer sans problème, mais les réactions épidermiques au football, hein, j'entends, les réactions épidermiques sur le banc de touche, bon, et vous pouvez revenir dans 20 ans, ça existera toujours.
Moi, je suis d'accord avec Pascal, sur l'éducateur avant tout qu'il est, l'entraîneur, il ne doit pas faire ça. Après, c'est très lourd. Et pourquoi certains entraîneurs prennent sa défense? Parce que ils savent que c'est un passionné et qu'on le coupe de son métier pour une réaction certes déplacée, mais on est en train de lui couper l'essence même de ce qu'il a appris à faire et ce qu'il veut faire.
Vous allez prendre un goré plein fer, hein. C'est Philippe Saint-André qui n'est pas du tout d'accord.
Bah oui, bien sûr. Vous parlez de comportement. Quand t'es entraîneur, t'es aussi un éducateur dans l'âme. L'exemplarité est importante. Comment tu peux valider quelque chose comme ça? Quelle image par rapport à ta jeunesse, par rapport aux jeunes éducateurs?
On ne dit pas le contraire, Philippe, là-dessus.
Par rapport
aux entraîneurs, etc. Donc, au contraire, je trouve que d'avoir pris 7 mois, les autres entraîneurs, ils vont réfléchir avant de faire tête contre tête avec l'arbitre. Mais, donc, j'ai trouvé que... De lui avoir chargé 7 mois, je trouve ça. C'est bien, il faut des sanctions. Si t'as aucune sanction,
Philippe,
ça ne fonctionne pas.
Est-ce que tu penses que Jürgen Klopp, il n'est pas représentatif de notre corporation?
Tu penses qu'il
montre pas l'exemple? Pourtant, combien de fois on l'a vu avec ses grandes dents, la blanche, là, haranguer l'arbitre à 20 centimètres de son visage?
Oui.
Pour autant, il est fou. Pour autant, il a pris des suspensions telles que celle-ci. Donc voilà, encore une fois, d'accord avec tout ce que tu dis concernant l'exemplarité, mais les émotions sur le banc, les émotions sur le banc. Vous, vous êtes malin, vous, les, au rugby. Vous avez plein d'adjoints qui peuvent se lever.
Les tribunes.
Ouais, voilà. Et vous êtes dans les tribunes, non, avec des micros, avec des lunettes extraordinaires. Là, non, vous nous racontez la science, comme ça, tu vois. Mais quand t'es le bourrico qui est en scientifique.
S'il y a tête contre tête avec un rugbyman.
Pascal,
nous, ça boue exactement. Même façon, mais on sait que si jamais on fait ce geste-là, mais c'est fini, on ne peut plus entraîner.
Oui, mais je sais.
Non, mais
je
Philippe, pour l'éducateur qu'il est, l'entraîneur, on est tous d'accord, mais c'est la sanction.
Bah justement, Simon veut revenir là-dessus sur la sanction.
Oui, c'est je souscris évidemment à l'exemplarité, montrer l'exemple. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça arrive. Vous avez parlé de contexte. En effet, les arbitres avaient parlé de l'éventualité d'exercer leur droit de retrait suite aux propos tenus par Longoria, le président marseillais, que je défends, que j'admire, dont je salue souvent le travail sur RMC, mais qui a quand même remis en cause l'intégrité morale de tout un système en parlant de corruption. Et moi, ce qui me dérange, c'est la différence de sanctions. En fait, évidemment, Fonseca, ça fait penser à de la violence, à de l'agressivité. Mais Pascal le rappelait, il y a de l'adrénaline. Voilà, il se dirige vers l'arbitre. Bon, il suffit que l'arbitre fasse un pas vers lui, puis tu te retrouves très vite dans ce front contre front. Il l'a regretté très vite. Je trouve que la disproportion entre la sanction pour des propos quand même que le président marseillais aurait pu mesurer et qui sont, je pense, d'une extrême gravité, parce qu'encore une fois, ils remettent en cause l'intégralité de tout un système. Je trouve ça un peu dur pour Fonseca, parce qu'il prend 9 mois. Longoria, ça va aller jusqu'en septembre, mais en fait, il prend 15 matchs. Si ça s'était passé il y a un mois, en gros, il aurait été suspendu jusqu'à la fin de la saison et ça va pas l'empêcher d'exercer. Ouais,
tu sais ce
vraiment
qui fait débat, c'est justement que encore une fois, c'est l'interprétation qui fait que les sanctions sont pas les mêmes, les faits sont pas les mêmes. Et quand les faits sont les mêmes, on arrive, nous, quand même, en France, où les institutions à avoir des sanctions différentes. C'est ça qui
crée... Oui, mais parce que vous êtes beaucoup dans la communication, vous facilitez la tâche de l'arbitre par vos comportements, mais aussi vos instances facilitent la tâche de la communication. Nous, il n'y a pas de com, les arbitres, ils t'insupportent à un moment donné.
Mettez des micros sur les joueurs.
Tu crois qu'on ne voudrait pas avoir des micros?
On n'a pas un flèche et tu veux qu'on mette les micros? On ne peut pas les équiper, les arbitres. On a que dalle. J'ai regardé dans le tiroir caisse, il n'y a plus rien, Pascal. Donc, c'est marrant. On va arrêter là ce débat. Mais merci, les GG, d'avoir contribué à cette très belle émission ce matin.
Bravo, Cédric.
Je propose qu'on
l'appelle. Bravo, Cédric.
Bravo pour cette première.
Un vrai plaisir.
Eh ben écoute, ça tombe bien parce que t'es là la semaine prochaine, dimanche prochain, et tu sais quoi, je t'annonce que dimanche prochain, tu seras avec Pascal Duprat.
Très bien.
Avec Philippe Saint-André et avec Simon Dutin. On remet ça, ok.
Dimanche prochain.
Je sais pas si on a gagné, mais en tout cas, on la change pas. J'ai pas les moyens de la changer. Les c'est dimanche prochain, et évidemment, on débriefera le tournoi Destination. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Cette émission est déjà disponible en podcast. On se retrouve dans quelques instants, les paris RMC. Surtout, on vous donnera toutes les cotes sur Liverpool PSG. On va parier dans quelques instants. On vous attend au 32-16. Allez, passez une très belle journée. Salut.
Salut.